Je savoure à l'avance la perplexité profonde des professeurs de droit public devant la nouveauté et l'étrangeté de l'objet constitutionnel que vous venez d'inventer ensemble. Le droit ne remplit sa fonction civilisatrice que s'il colle à la vie. Il faudra bien qu'il s'y plie.
Les trois référendums ont eu lieu. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française.
Vous venez de les entendre dans l'ordre d'apparition et à 25 ans d'intervalle. Michel Rocard en 1998, lors de la signature de l'accord de Nouméa, et 25 ans après, Emmanuel Macron, en juillet 2023, à Nouméa, lui déclarait qu'après les trois référendums de cet accord, eh bien la Nouvelle-Calédonie, désormais, elle est plus que jamais française. Alors Michel Rocard, visionnaire, savoure-t-il vraiment la situation dans sa tombe? Car on peut le dire, plus de 25 ans après la signature de cet accord de Nouméa, eh bien elle continue, même si quelques-uns le croient encore déjà bel et bien enterré, eh bien il continue à causer décidément des maux de tête aux juristes et autres législateurs de droit constitutionnel. La preuve encore ces derniers jours, c'était mardi au Sénat, à Paris, on discutait les répercussions de l'accord de Nouméa, de sa suite. D'abord avec ce projet de révision de la Constitution, justement, et un changement qui est loin de faire l'unanimité. Je veux parler d'une modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour spécifiquement les élections locales, qu'elles soient provinciales ou l'élection des membres du Congrès, avec cette notion charnière qui est un corps électoral gelé, comme il dit. C'était le cas, et encore le cas d'ailleurs jusqu'à maintenant, gelé, pour les gens seulement pouvant voter, c'est-à-dire ceux installés avant 1998. Désormais, ce que le gouvernement français veut faire passer, pour remettre un peu le système de Nouvelle-Calédonie en adéquation avec la Constitution et les principes de base de la démocratie, c'est-à-dire un corps électoral qui permettrait aux gens de voter à condition qu'ils aient résidé sans interruption en Nouvelle-Calédonie, au moins au cours des 10 années précédentes. On appelle ça le corps électoral glissant. Notion très sensible, très glissante, justement du point de vue des indépendantistes, qui considèrent que ce qui a été mis en place par l'accord de Nouméa ne peut en aucun cas être détricoté, même si les juristes, la plupart d'entre eux, considèrent que les dispositions de cet accord de Nouméa était pour certaines, y compris le corps électoral, transitoire. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que le gouvernement, en la personne du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, eh bien, il a lui aussi des arguments valables, sauf que côté indépendantiste, eh bien, on estime que c'est un véritable recul et qu'à terme, tout cela risque de mettre en minorité la population d'origine kanak. Et puis, il y a aussi en corollaire un appel de Monsieur Darmanin et du gouvernement français, appel à ce que tous les partis arrivent ensemble autour de la même table au cours des prochains mois, arrivent à un texte qui serait la base d'un accord, un accord qui serait censé succéder à l'accord de Nouméa. Sauf que ce fameux accord local et consensuel et inclusif et global, c'est comme vous voulez. En tout cas, il n'arrive pas. Et les discussions actuelles au Sénat cette semaine, elles parlent justement beaucoup du fait que un éventuel amendement à la Constitution tel que présenté par le gouvernement, eh bien, il pourrait en quelque sorte, pour rassurer tout le monde, s'autodissoudre si un tel accord local était constaté au cours des mois qui viennent, avec quand même, dans l'état du texte actuel, une date limite au 1er juillet 2024. Sur ces points, les avis divergent. Écoutez plutôt le rapporteur de la Commission des lois au Sénat, Philippe Bas.
Nous pensons qu'il faut donner toutes ses chances à l'accord, mais nous voulons détendre un petit peu un processus dans lequel on a mis un peu de stress. On ne fait plus l'ultimatum au 1er juillet, on garde cette date uniquement parce que c'est l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle. On dit que d'ici au 15 décembre, s'il y a un accord, on suspend le processus électoral pour mettre en œuvre l'accord. On dégèle avec les 10 ans et en intégrant les natifs la liste électorale de la Nouvelle-Calédonie. On est inspiré par l'idée qu'il faut que la démocratie calédonienne puisse fonctionner, nous le faisons comme un dispositif de secours à titre subsidiaire. À tout moment, nous offrons de prendre en considération un accord s'il est noué.
Allez, un petit coup d'œil du côté gauche de l'hémicycle, le point de vue de la sénatrice communiste, qui se trouve être aussi vice-présidente de la commission des lois au Sénat, Cécile Kukierman.
Il serait nécessaire que la République prenne toute sa place dans les discussions entre indépendantistes et loyalistes aujourd'hui. Chacun doit jouer son rôle, mais il doit y avoir une volonté d'un accord global, parce que c'est le seul qui permettra demain d'éviter des tensions. Or, dès aujourd'hui, nous savons que ce texte de loi constitutionnelle, s'il était voté en l'état, peut générer de nouvelles tensions sur l'île, ce que nous ne souhaitons pas, en tout cas, pour les Kanaks en tout premier lieu.
Le cheminement parlementaire de ce projet de loi constitutionnelle commence maintenant à entrer dans le vif du sujet, mais ce n'est que le début. Dans quelques semaines, ce sera à peu près la même chose dans l'autre chambre du Parlement français, l'Assemblée nationale, sans oublier bien sûr que puisqu'il s'agit d'un amendement constitutionnel, eh bien les deux chambres devront se réunir en congrès à Versailles pour entériner éventuellement ce projet de révision constitutionnelle par une majorité minimum de 3/5. Après avoir tenu son congrès le week-end dernier dans la banlieue de Nouméa, le Front indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, le FLNKS, a clairement demandé au gouvernement français de purement et simplement retirer son projet de loi d'amendement constitutionnel. Il a aussi demandé au gouvernement français d'envoyer une mission de haute réputation et indépendante, et puis aussi de ne pas imposer d'échéance à ce que le FLNKS assimile à une sorte de couteau sous la gorge. Pendant ce temps-là, à Nouméa, eh bien, on est dans le vif du sujet aussi. Là, voilà ce qu'on pouvait entendre sur le terrain ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation, une de plus, avec blocage à la clé par des engins et des camions. Blocage sur les accès aux dépôts de carburant. Un blocage organisé par un groupe qui proteste contre les taxes mises en place par le gouvernement local, à majorité indépendantiste, y compris une taxe sur l'électricité, une autre sur le carburant, pour en citer que quelques-unes. C'est la réponse du gouvernement local à une situation de crise grandissante qui ne fait qu'empirer sur place, une situation aussi exacerbée par une autre crise économique et sociale qui fait tache d'encre peu à peu en Nouvelle-Calédonie sur fond de crise profonde du secteur du nickel. Une crise qui a aussi des répercussions au plan politique local, puisque sur fond de désaccord entre la politique du gouvernement indépendantiste majoritaire, politique de taxes, et les suggestions des non-indépendantistes membres de ce gouvernement, suggestion de pratiquer une vraie politique de relance, eh bien, le torchon brûle de plus en plus entre ces deux composantes d'un gouvernement censé être collégial. Christopher Gigès, membre de ce gouvernement, et trois de ses collègues non indépendantistes, eh bien, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils se considéraient désormais comme dans l'opposition, qu'ils contestaient la légitimité du gouvernement auquel ils appartiennent, et il ne participerait plus aux travaux d'un gouvernement pourtant censé être basé sur le consensus. Écoutez les explications de Christopher Gigès, qui représentait pour le coup à la fois les groupes loyalistes et rassemblements au sein du gouvernement local.
On a quitté la séance du gouvernement parce qu'on a refusé tout simplement qu'on pratique 6 milliards de TGC sur les Calédoniens, une augmentation du prix de l'électricité sur l'ensemble des Calédoniens et que demain passe une nouvelle taxe sur l'essence de 20 francs du litre sur l'ensemble des Calédoniens. On est sur un matraquage fiscal alors que la situation économique impose une relance économique et un soutien au pouvoir d'achat. La logique de la majorité indépendantiste, c'est de répondre que par des taxes. On a fait des propositions, nous, de relance économique, de travailler ensemble, de réunir une mission économique et sociale qui permet de réunir les différents acteurs, et aujourd'hui la seule réponse est c'est une réponse fiscale, et c'est pas acceptable aujourd'hui dans le contexte actuel où les gens perdent leur emploi, où les entreprises ferment, de pratiquer 11 milliards de taxes supplémentaires sur les entreprises et sur les Calédoniens. Ce n'est pas supportable.
Et les blocages qui ont débuté la semaine dernière ne semblent pas vouloir s'arrêter cette semaine. D'ailleurs, voilà les répercussions et les réactions recueillies dans plusieurs stations d'essence de Nouméa et de sa banlieue au micro de Nouvelle-Calédonie, la première.
Depuis jeudi, on n'a plus de carburant et vendredi, on n'a plus de gasoil. Et là, on est à sec, plus rien.
Ça va au ralenti. Quand ça fait comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de carburant. Là, je vais arrêter. Ça y est, c'est la fin. Je ne peux pas plus vous servir, ça ne sort pas.
Je suis pompier volontaire, je serai de garde le week-end prochain, donc j'ai besoin de pouvoir me déplacer. Je bénéficie de ça.
Ben, si j'en trouve, tant mieux. Si j'en trouve pas, ben, tant pis. C'est ça le problème.
C'est pas grave, hein. On fera comme tout le monde. On marchera à pied, on ira à pied. Voilà.
Quant à la situation très précaire et sensible du nickel en Nouvelle-Calédonie, eh bien, même si le gouvernement français et son ministre des Finances, Bruno Le Maire, pensaient pouvoir faire signer un plan de sauvetage, y compris aux politiques de Nouvelle-Calédonie, avant la fin du mois de mars, eh bien, ça n'en prend pas du tout le chemin. Le président du gouvernement local, Louis Mapou, traîne des pieds. Il a refusé de signer ce plan tant qu'il n'aurait pas l'aval de son congrès. Le congrès aurait dû statuer sur la question ce jeudi. Eh bien, il a déclaré que pour cause d'emploi du temps chargé, il ne pourrait pas le faire avant plusieurs semaines. Quant à la Polynésie française, allez, on change un peu de théâtre. Eh bien, ces derniers jours, ce ne sont pas forcément les problèmes de même nature qui dominent, mais quand même, la police et les douanes ont intercepté plusieurs livraisons de méthamphétamine, ce qu'on appelle communément l'ICE, des livraisons qui sont intervenues soit à bord de bateaux porte-conteneurs ou bien sur des vols ayant tous les deux comme point commun la provenance, les États-Unis. Ça a permis aux autorités de démanteler un véritable réseau local, mais aussi de remonter la filière de ce qu'il faut bien appeler un trafic international de stupéfiants. Un trafic qui suscite bien des inquiétudes, tout simplement parce que même au plan local, en Polynésie, le problème de la consommation de drogue n'est pas anodin. Ça commence par le cannabis qu'on peut faire pousser localement et c'est un véritable problème constaté, à savoir que la consommation se fait de plus en plus jeune, quelquefois à partir de 12 ans. Le docteur Romain Bourdoncle, directeur du centre de consultation spécialisé en addictologie et en toxicomanie au département polynésien de la santé, explique au micro de Polynésie la première.
Clairement, chez les jeunes, il y a une banalisation de la consommation de cannabis. Les jeunes qu'on voit et qui viennent consulter, il y a près de 80-90% d'entre eux qui en consomment. C'est très banalisé entre eux, c'est très banalisé malheureusement dans la famille. Et parfois, on voit des environnements à la maison où c'est café, pain, beurre, paca. Et ils ne se rendent pas toujours compte des conséquences négatives sur leur sommeil, sur leur humeur et surtout à cet âge-là, sur leur scolarité.
Quant au procureur Thomas Pison, à Papeete, il connaît bien le problème. Et il parle quant à lui d'un trafic de fourmis, une consommation qui reste certes anecdotique, mais est très préoccupante. Écoutez-le plutôt.
Les jeunes mineurs qui dealent, c'est surtout pour leur propre consommation. C'est-à-dire qu'ils dealent un peu pour se faire 3 francs 6 sous, pour s'acheter leur propre drogue pour eux. On ne peut pas parler de trafic vraiment structuré. C'est le trafic dit de fourmis. J'achète pour 200 francs, j'en vends 50 et ça me fait une petite gratte pour pouvoir acheter ma prochaine dose.
Toujours au chapitre de la délinquance, avec un secteur touristique qui ces derniers jours est vraiment en mode contrôle de crise avec cette agression de 2 touristes australiens, tous les deux la cinquantaine, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, en plein Papeete. Agression par des individus locaux, agression qui vient porter un coup sérieux en termes de réputation à la destination Tahiti, alors que justement les derniers chiffres, ceux de 2023, affichaient des records de fréquentation. Écoutez les explications de cette affaire, désormais judiciaire, c'est l'explication de Solène Bellawar, procureure de la République.
Ces personnes se sont croisées dans la rue en sortant de restaurants, en sortant de boîtes de nuit, et il y a eu un geste mal interprété, une bousculade involontaire, qui a irrité les jeunes, qui ont décidé d'aller agresser les victimes suite à cette bousculade.
Ça tombe mal parce que le président de la Polynésie française, Moe Tai Brotherson, était justement ces derniers jours à la pêche aux touristes, lors de son voyage à Singapour. Il a rencontré, entre autres, la direction Asie-Pacifique du célèbre groupe Club Med. Et selon lui, ça ne fait pas un pli, Club Med, qui était implanté jusqu'en 2001 sur l'île sœur de Tahiti, Moorea, eh bien, Club Med pourrait très bien revenir dans pas longtemps dans l'archipel polynésien. Écoutez-le au micro de Polynésie la Première.
Je pense que c'est plus qu'un éventuel retour, c'est une vraie volonté de Club Med de revenir en Polynésie avec un repositionnement de leur offre vers un segment plus exclusif qui correspond donc à ce que nous recherchons.
Une intention que semble d'ailleurs confirmer le directeur du développement pour l'Asie-Pacifique, basé à Singapour, Sébastien Favre.
Le Club Med a beaucoup évolué sur les 20 dernières années, il s'est renforcé. Et donc aujourd'hui, on a l'appétit et la confiance commerciale pour regarder d'autres projets dans le Pacifique, et notamment en Polynésie française.
Allez, comme d'habitude aussi, on ne peut pas finir sans parler quand même de ce qu'il faut retenir dans le reste de la région. A commencer par ces derniers jours, en début de semaine, un terrible séisme de magnitude 6,9 qui a frappé la province de Sepik au nord de l'île principale de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le bilan est encore évolutif, on parle encore de 5 morts, mais surtout d'un millier d'habitations partiellement ou complètement détruites par cette secousse. Ainsi va la vie en Océanie. Je vous souhaite une bonne semaine.